Dimanche passé, j'ai oublié de vous dire que c'était l'anniversaire d'Esther. À son âge, on commence déjà à cacher son âge. Bon anniversaire quand même en retard, hein? Voilà. Ça va, t'es fatigué? Prends ta montre en main. Nous allons prier. Père Céleste, nous venons à toi ce matin, te remerciant de nous avoir donné la force de nous lever. Pour beaucoup, les organismes sont peut-être fatigués. Le sommeil a été raccourci également par César et ce qui fait tous les ingrédients sont réunis pour que nous soyons fatigués ce matin. Mais c'est un jour de rendez-vous avec toi aussi. Nous avons tenu quand même à venir. Et nous comptons sur ta grâce, Père, pour le temps que nous passons, sois-nous miséricordieux, que tu nous conduises et que nous puissions repartir ayant reçu quelque chose. Nous nous attendons à toi, te demandant de bénir chacun, de pardonner les péchés à chacun. Pardonne-nous nos offenses, donne-nous aussi de pardonner lorsque nous sommes offensés. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. On va lire dans 2 Corinthiens 3. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, donc, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Transformés. Nous sommes transformés. Transformés, la transformation par l'Esprit. Nous avons besoin d'être transformés, d'être à l'image du Seigneur. Il savait ce qu'il attendait à Golgotha, mais il y est allé tout droit. Amen. Beaucoup fuient, mais nous ne fuyons pas. Comme nous l'avions dit pendant la semaine, lorsque nous chantons « La croix est devant moi », nous n'avons plus à reculer. Qu'importe ce qui est devant nous, nous ne reculons pas. Nous continuons à aller de l'avant. Le nombre de fois que Dieu demande à Josué, juste avant de prendre la terre promise, il lui dit deux fois, je crois, deux ou trois fois, il lui dit dans Josué chapitre 1er, verset 7, « Fortifie-toi seulement et bon courage. » En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Pour justement suivre, agir selon la loi de Moïse, il nous faut du courage. Surtout dans un âge aussi mauvais que celui de la Odyssée. Il faut du courage pour vivre honnêtement. Il faut du courage pour vivre en croyant. Et il faut du courage pour se saisir des promesses. Dieu dit à Josué, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ?» C'est un ordre. « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous savez, même quand le Seigneur est venu sur la terre, ses disciples, c'était des peureux. Au départ, ils étaient des peureux. Ils avaient peur de beaucoup de choses, comme nous aujourd'hui. Frère Abraham dit, il y a une chose qui mine l'Église, c'est la peur. Nous devons aller avec courage. Il y a un bien-aimé qui a chanté en avant courage, peuple du Seigneur. Nous en avons besoin. Une tempête les effrayait, les disciples. Ils étaient effrayés par la tempête. Matthieu 8. Nous croyons que Dieu transforme les gens par l'Esprit Saint. Lorsque l'Esprit Saint vient, vous révèle qui est réellement Jésus-Christ, qui vous a promis d'être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, lorsqu'il vous révèle qui il est, mais vous marchez dans ce monde avec courage. Dans Matthieu 8, verset 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Il était avec eux. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Mais je suis au milieu de vous. De quoi avez-vous peur ? Pourquoi auriez-vous peur du lendemain ? Pourquoi auriez-vous peur de tous les dangers qui viennent ? Il vous a promis d'être avec vous. Hein ? Il dit à Josué, « Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car je suis avec toi. » Et c'est exactement ce qui se passe. Vous savez, ils avaient même peur des fantômes. Des disciples de Dieu qui ont peur des fantômes. Il y en a qui ont peur de la sorcellerie. Entre les fantômes et les sorciers, la frontière n'est pas très énorme. Dans Marc, chapitre 6, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Difficile dans la marche. Car le vent leur était contraire. Surtout quand le vent est contraire, quand le vent n'est pas favorable. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris. Un fantôme. J'ai regardé dans ma concordance, quand il leur dit « n'ayez pas peur », il le dit dans les évangiles et ça s'arrête après, ça s'arrête juste avant la Pentecôte. Après la Pentecôte, ils n'avaient plus besoin qu'on leur dise « n'ayez pas peur ». Ce qui donne la force, c'est un esprit de force, la Pentecôte. Ce qui donne la force aux croyants, c'est justement l'Esprit du Seigneur. Pourquoi ? Parce que l'Esprit du Seigneur vous transforme. De lâche que vous êtes, vous devenez brave. de peureux que vous devenez courageux. Vous savez que pour avoir les promesses de Dieu, pour les obtenir, il faut du courage. Bartimée, quand il a crié au bord du chemin, « Fils de David, aie pitié de moi », vous pouvez lire ça dans Marc 10, « Aie pitié de moi ». Quand il a appelé, on lui a dit, « Prends courage, il t'appelle ». J'ai toujours demandé pourquoi il fallait du courage à Bartimée pour aller vers le Seigneur qui l'appelait. Et nous aussi, lorsque il veut que nous lui parlions dans la prière, nous devons être courageux dans notre prière. Nous devons avoir ce courage-là dans la prière. Ils avaient même la crainte des Juifs, la crainte des autres croyants. Vous devez être certain en qui vous avez cru. Vous devez savoir que le Jésus du Nouveau, c'est le Jéhovah de l'Ancien. Vous savez que déjà dans l'Ancien Testament, il leur disait cela également. Dans Deutéronome 20, on l'a lu dans Josué, dans Deutéronome 20, il leur disait ceci. Verset 1er. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, on a plein d'ennemis. Les maladies, les problèmes, les difficultés. Mais lorsque tu iras à la guerre et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, Dieu dit, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Je peux vous montrer tout de suite là où Jésus dit, n'est-ce pas, car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il leur dira, le sacrificateur, le prédicateur, il dira, écoute Israël, écoutez. Vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Jésus a dit ça. Dans Jean 16. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Alors, maintenant, écoutez ceci. Les officiers parleront ensuite au peuple, les prédicateurs, ils diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Si c'est ça votre souci, n'allez pas combattre. Qui s'en aille et retourne chez lui de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qui ça? S'il y en a un qui s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui est fiancé à une femme et ne l'a point encore prise, qui s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qui s'en aille et retourne chez lui. Vous savez pourquoi? Afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quelqu'un qui n'est pas courageux a tendance à entraîner vers le bas les autres. Quelqu'un qui n'a pas la foi dans la prière a tendance à amener les autres vers le bas, à les tirer vers le bas. C'est-à-dire, lorsque c'est une maladie qui semble être grave, celui qui n'a pas vraiment la foi, il est là, il dit, mais tu sais, en fait, c'est une maladie grave, il commence à vous décrire la maladie, il commence à vous décrire combien est grande la maladie, combien cette maladie est tenace, combien les médecins sont impuissants, il va vous dire ça et puis il vous dit « allons prier, ça ne sert à rien ». Quand vous voulez prier pour un malade, ayez la conviction, dites « venez ». Jésus guérit encore aujourd'hui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je n'ai pas à dire « ah, mais c'est difficile, vous êtes aveugle de naissance, ce n'est pas un problème. » Ce n'est pas un problème. Dieu guérit les aveugles de naissance. Il faut du courage. Vous rencontrez un aveugle pour lui dire ça. Il faut du courage. Lorsque vous voyez un aveugle, un infirme ou quelque chose comme ça dans la rue, vous lui dites, vous êtes croyant, vous venez de l'assemblée, on vous a prêché ces choses, mais dire à l'aveugle, dire au nécessiteux là-bas dehors, lui dire, tu sais, j'ai un Dieu qui peut te guérir, il faut du courage. Beaucoup sont retenus par une certaine timidité. Paul dit à Timothée, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Et il dit ceci à Timothée dans 2 Timothée 1. Timothée. Je crois que Timothée était timide. Sa naissance. Il dit ceci. Je rends grâce à Dieu, verset 3, que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Me rappelant tes larmes, Timothée, et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Il pleurait beaucoup. Je ne sais pas s'il était pleurnichard, mais il pleurait beaucoup. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord ton aïeul Loïs. Oh, cet aïeul, quand je la verrai là-bas, je dirai, Dieu te bénisse. Et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc souviens-toi de la foi de ton aïeul et de ta mère. Parce que lui, il était fils d'un gentil. Le papa était un païen. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. N'aie pas peur, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Vous savez, là, l'instruction peut aussi être un piège. Le fait de connaître beaucoup, eh bien, ça réduit notre foi. Il y a une connaissance que nous devons avoir. Et il y a une connaissance que nous devons éviter. La connaissance de l'Égypte, la sagesse égyptienne. C'est pourquoi Dieu a tenu à enlever à Moïse toute la sagesse d'Égypte qu'il avait reçue. Parce qu'avec la sagesse d'Égypte qu'il a eue, lorsque Moïse crie à Dieu, le peuple a besoin d'eau, pour toute réponse, Dieu lui dit, frappe le rocher. Avec une sagesse égyptienne, Moïse aurait trouvé cet ordre bizarre. Il faut que Dieu vous enlève d'abord cet ordre-là. Parce que le rocher, c'est l'endroit le plus sec qu'il y a dans le désert. Lorsque Dieu lui dit, ils veulent de la viande, je veux leur en donner. Et pas un jour, pas deux, mais un mois entier. Moïse dit, mais Seigneur, tu as vu tout ce peuple que j'ai ici? Voilà, le trop, ça, c'est trop. Il en connaissait trop de l'Égypte. Quand vous en connaissez trop de l'Égypte, ça vous handicape. Et C'est pourquoi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, quand Jésus est venu, il ne s'est pas embarrassé des intellos. Il a pris des gens sans instruction. Amen. Maintenant, on n'est pas là pour encourager l'ignorance, mais c'est pour dire que l'instruction que nous avons reçue est un frein à la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Vous savez, ils avaient même aussi, au temps du Seigneur, ils avaient la crainte des Juifs. Les gens avaient peur. Les Juifs les menaçaient, disant que, écoutez, si vous suivez cet homme, on vous chassera du Sanhédrin. Mais qu'est-ce que je me fiche du Sanhédrin, de la synagogue, pardon. Qu'est-ce que je me fiche de la synagogue? Ma foi n'est pas sur la synagogue, ma foi c'est en Dieu. Jean 7. Ah, on va me chasser de l'assemblée de Firlan. Où est le problème? Tant que Dieu ne vous chasse pas, amen. Gloire à Dieu. Jean 7. Verset 11. Verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même. Non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il ? » Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet, comme aujourd'hui. Les uns disaient, « C'est un homme de bien, comme aujourd'hui. » D'autres disaient, « Non, il égare la multitude. » J'en connais qui le disent. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Donc, à cause des Juifs, j'ai peur de parler de mon Jésus. Ils avaient peur du Sanhédrin. Quand le Seigneur a guéri l'aveugle-né, les parents de l'aveugle-né ont été convoqués par le Sanhédrin pour demander est-ce que votre fils est vraiment né aveugle. Jean 9. D'abord, c'était un jour de sabbat, c'est déjà ça. Verset 15. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Si vous êtes instruit, cet aveugle est fou. Oui, si vous êtes instruit. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle. Mais c'est moi qui vous dis que j'étais aveugle. Comment vous ne me croyez pas ? Et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? C'est bien lui. Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils. » Un parent ne renie pas son fils, malgré la peur. Mais maintenant, le problème que vous posez, ça, posez-lui la question. C'est notre fils et qu'il est né aveugle, c'est notre fils, ça nous le savons. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Nous n'étions pas là. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. excluez-moi de la synagogue. Amen. Parce que ce n'est pas la synagogue qui donne Christ. Ce n'est pas la synagogue qui vous mène à Christ. C'est Christ lui-même qui vous appelle. Donc, avant la Pentecôte, le Seigneur encourageait souvent ses disciples. Et juste avant de partir, il leur dit, écoutez, je serai avec vous tous les jours. Maintenant, allez par le monde entier, prêcher la bonne nouvelle, allez dire que, dites à tous ceux qui ont le cœur troublé, dites-leur ceci, dites-leur que leur péché est pardonné, leur iniquité est expiée, dites-leur, prêchez, jusqu'aux extrémités de la terre. Fait un drame là, vous voyez les disciples se lever, ok, nous y allons, Seigneur dit, attendez. Tel que vous êtes là, Pierre, il y a à peine 3 ou 4, il y a quelques jours, je ne sais plus combien, il y a entre l'ascension et la résurrection, je ne sais, je crois que c'est 40 jours. Il y a une quarantaine de jours, tu as renié le Seigneur devant une servante. Et tu te lèves pour aller prêcher. Qu'est-ce que tu vas aller prêcher? Et où tu vas aller prêcher? Le Seigneur dit, attendez. Attendre quoi? Attendez une puissance. Et cette puissance, lorsqu'elle viendra, elle va vous transformer. Cette lâcheté qui est en vous, cette puissance va vous l'enlever. Alors, quand la Pentecôte est arrivée, c'était des gens complètement changés, complètement transformés. Le timide est devenu brave. Le faible est devenu fort. Vous savez, chez Samson, c'est l'inverse qui s'est passé. Samson, quand il est né, l'Esprit de l'Éternel venait et l'agitait pour aller travailler. Ce qui fait que Samson, on pouvait l'enfermer avec une porte en airain. Il prenait la porte, il arrachait la porte. Il mettait ça sur son dos et il l'amenait au loin, il partait. Il avait une force phénoménale. Tant que l'Esprit de Dieu était sur lui. Et d'ailleurs, quand il va être embêté par Delilah, il va dire à Delilah, il va dire, en réalité, je suis un homme comme tous les autres. Je ne suis pas extraordinaire. Mais seulement, il y a quelque chose qui est en moi. Je suis sous une alliance. Amen. Dans Juges 16, il dit ceci. Verset 15. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. » Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force, cette force-là. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, écoute, le secret de ma force est ceci. Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. C'est pourquoi Dieu dit à Pierre, aux autres, sans le Saint-Esprit. Si vous regardez dans Juges 13, vous verrez que c'était le Saint-Esprit qui l'agitait. Samson, l'Esprit de l'Éternel. Sans le Saint-Esprit, nous sommes tous comme tout le monde. Faibles moralement, faibles physiquement, faibles psychiquement. Mais quand le Saint-Esprit vient, on est moralement fort. On a toujours le moral. Même dans les moments difficiles. Même lorsqu'on est devant un cercueil. Même lorsqu'on est devant une tombe. On a toujours le moral. Ce moral de la résurrection. Lorsque le Saint-Esprit est là, qui nous révèle toutes ces choses, on a toujours le moral. Mais si on le perd, évidemment, on devient faible. David, animé par l'Esprit, je l'ai souvent dit, David, animé par l'Esprit, il nous a terrassé Goliath, il a prophétisé, n'est-ce pas ? Il était fort dans la foi, mais une fois que l'Esprit l'a un peu quitté, n'est-ce pas ? David était devenu faible comme tout autre homme. Comme tout homme normal. Et c'est pareil. Pour que nous n'ayons pas peur, pour que nous ne soyons pas toujours avec cette excuse, Seigneur, c'est ma faiblesse, il y a un esprit de force qui est encore donné aujourd'hui. Et c'est cet esprit de force que Dieu nous a promis. Dieu dit, attendez. Le disciple, si quelqu'un est lâche, il devient courageux. Il devient fort. Ce qui a changé les disciples, non seulement ça les a changés extérieurement, mais ça a changé leur vie. Pierre pouvait tenir tête à tout un Sanhédrin. Désormais, il pouvait aller prêcher. Et nous de même, nous sommes souvent timides lorsqu'il s'agit de parler de la puissance du Dieu vivant. Partout où nous sommes, partout où nous allons, on adore presque en cachette. On chante presque en cachette. Je ne vous demande pas de vous exhiber, mais ce qu'il y a, ne reniez pas votre foi. Ne reniez pas Jésus-Christ. C'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. C'est ce dont la rue de Firlan a besoin aujourd'hui. C'est ce dont chaque enfant de Dieu a besoin d'aujourd'hui. Nous avons tous besoin d'une Pentecôte. C'est important. Même nos frères qui sont dans les endroits de trouble, c'est nos frères qui sont en Iran, dans l'est du Congo, partout il y a des troubles, ils ont besoin de la Pentecôte. On commence à envoyer des textos pour qu'on aide les frères qui sont dans les endroits de guerre. Vous savez, vous pouvez envoyer autant d'argent que vous voulez, encore faut-il que cet argent y arrive. Encore faut-il qu'ils aient de quoi manger. Encore faut-il qu'ils puissent s'acheter de quoi manger. La guerre détruit tout. Mais ce qui fait ça, c'est le fait que le Saint-Esprit n'est pas sollicité. Mais là où il y a des enfants de Dieu, il y a une protection. Souvenez-vous, qui ça Rab, sa maison était construite sur la muraille. La muraille devait tomber. Toute la muraille est tombée, excepté sa maison. C'est encore le même Dieu aujourd'hui. Les frères qui sont dans les endroits de trouble, ils ont besoin d'une Pentecôte. Nous devons prier pour cela. C'est le meilleur don qu'ils peuvent recevoir, plus que mes 50 euros que je peux leur envoyer. Ils ont plus besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. parce que le Saint-Esprit fait de sorte que vous ayez besoin, que vous ayez, n'est-ce pas, ce que dont vous demandez, que vous ayez foi en ce que vous demandez. Le frère dit, l'Église meurt par manque de Pentecôte. Vous voyez, il y a des guerres à cause de ça. Et encore, à cause des élus, tant que les élus sont là, il y a le Saint-Esprit qui retient l'Antichrist pour qu'il ne fasse pas certaines choses. Alors, comment faire pour l'avoir? C'est cela le problème. C'est simple. Dieu nous dit ceci et nous allons prier. La Pentecôte, elle demeure encore jusqu'à aujourd'hui. La Pentecôte, ce n'est pas terminé. Ne restons pas tranquilles tant qu'elle ne se passe pas dans l'Assemblée. Amen. Il faut que cette salle soit remplie de l'Esprit de Dieu. À chaque fois que nous nous réunissons, et quand les cantiques sortent jusque dans la rue, il faut que ça sorte avec le Saint-Esprit pour frapper celui qui est errant là-bas dehors, ne sachant où aller. Et le Saint-Esprit va le rencontrer. Pour cela, que faut-il faire? Dieu dit ceci, pour que je sois au milieu de vous. 2 Corinthiens 6. Verset 16 au verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. « Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sanctifiés. Recherchez la sanctification. Hébreux 12, sans laquelle on ne verra pas le Seigneur, n'est-ce pas? Sanctifiez-vous. Wesley est venu avec le message de la sanctification. Dieu a fait de grandes choses. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Dites amen à ça. La paix. Évitez les problèmes. Celui qui génère les problèmes, c'est l'ennemi. Recherchez la paix. Dans Romains, il dit, autant que cela dépend de vous. Recherchez la paix avec tous les hommes. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix. Recherchez la sanctification. Et on obtient où cette sanctification? Ce qui nous sanctifie, c'est la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité. La parole est la vérité. 1 Timothée 4. Verset 5. parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Cette parole, Dieu dit à Josué, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. C'est le même Dieu qui vous parle ce jour au travers de sa parole. Et alors, Dieu va effectuer, va manifester sa promesse au milieu de nous. Il a déjà été dit ici, si les gens ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit, beaucoup m'ont souvent posé la question. Il a souvent été dit, il y a une question de repentance. Il n'y a pas que la repentance. Il y a la sanctification aussi. Le Saint-Esprit ne peut pas venir sur vous tant que ces choses y sont encore. La justification ne suffit pas. Il faut que vous soyez sanctifiés. Une fois que vous êtes sanctifiés, vous vous êtes séparés de ces choses qui vous calent. Vous vous êtes éloigné de cela. Une fois que vous vous en êtes débarrassé, une fois que vous avez signé la paix avec tout le monde, maintenant, si une personne ne veut pas signer la paix, ce n'est pas grave. Priez pour la personne. Continuez le chemin. Mais on l'a dit mercredi, ne laissez pas un problème se perpétuer. Si se rallonge, à un moment donné, abandonnez cela. Après avoir fait ce que vous pouviez faire. Mais continuez à aller de l'avant. Il y a un Dieu. Il y a un Saint-Esprit qui est prêt à nous donner tout ce dont nous avons besoin. Qui est prêt à nous faire marcher selon ce que nous voudrions. Et que cela soit réellement notre besoin dans l'Assemblée. Et pas seulement lorsqu'on se rassemble, qu'on prie ensemble, non. Quand vous êtes chez vous, demandez-le. Si vous êtes agriculteur, quand vous êtes dans les champs, demandez-le. Partout où vous allez, demandez-le. Quand vous avez l'occasion de le demander, demandez-le. En toute occasion, demandez-le. Si Dieu voit que vous le demandez, hein, ses élus crient à lui nuit et jour. C'est ce que Jésus a dit. Même quand vous avez sommeil, si à un moment donné vous ouvrez l'œil, demandez-le. Importunez Dieu si vous voulez. Importunez-le, celui qui demande qu'on l'importune. Ça ne le dérange pas. Jusqu'à ce qu'il dise, bon, je vais le lui donner. Amen. Allez, il faudrait que vous reposiez. Les gens sont fatigués. Que Dieu vous bénisse. Et c'est important. Si vous êtes timide, il vous rendra brave. Si vous êtes peureux, il vous rendra courageux. Si vous êtes lent à comprendre, il vous révélera ces choses. Ce glorieux Saint-Esprit, prions le Seigneur. C'est cela notre demande. Nous voulons rentrer avec cela dans nos cœurs aujourd'hui. C'est une promesse qui nous a été faite. C'est pour nous. Ce n'est pas pour les êtres célestes, c'est pour nous. Dieu l'a dit, la promesse est à nous. Que nous puissions lui demander cela. Que cela soit le sujet de notre demande, de nos besoins. Chaque fois que nous aurons exprimé nos besoins, chaque jour, à chaque fois que nous nous souviendrons qu'il y a cette promesse, que nous puissions le lui demander. Afin que, lorsque nous nous réunirons, que ceux qui n'ont pas de courage puissent trouver du courage. Que ceux qui ont besoin d'aide, qu'ils soient secourus. Accomplis cette promesse au milieu de nous. C'est un grand don que tu as fait à l'Église. C'est le plus grand don que tu nous as fait. Et que tu nous fais encore aujourd'hui. Et nous le désirons, ce don. Lui nous transformera. Il nous élèvera loin de nos faiblesses. Il nous élèvera au-dessus de nos faiblesses. Il nous aidera dans nos combats. Quand le vent sera contraire, nous pourrons compter sur son aide. Quand nous aurons difficile à ramer, il nous donnera la force de le faire. À tel point que le Philistin se posera la question, d'où te vient cette force, ce caractère? S'il n'était pas là, nous serions comme tout autre homme. Nous serions même rien, pas plus que des mammifères. Mais lorsqu'il est là, nous sommes différents, des êtres transformés. Quand nous étions rebelles, nous étions peut-être méprisés, des gens sans instruction. Désormais, le monde attend la manifestation du Fils de Dieu, des fils de Dieu. Accomplis ta promesse au milieu de nous. Bénis tes enfants. Et nous voulons te remercier également pour nous avoir aidés hier dans l'événement que nous avons eu à célébrer. Te remercions pour ce couple qui s'est formé. Nous renouvelons encore notre prière en leur faveur. Que tu te souviennes d'eux. Souviens-toi aussi de ceux qui se sont mariés depuis quelque temps déjà. Souviens-toi de ceux qui ne le sont pas, mais que chacun puisse trouver en toi l'aide dont il a besoin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié et nous te demandons cela. Amen. Transforme-nous, Seigneur, et que nous soyons à l'image de Jésus-Christ, que nous puissions avoir son courage à affronter la croix, à affronter Golgotha. Donne-nous cette force, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Te demandons, Seigneur, de nous assister, ainsi que nous l'avons chanté, marcher dans cette lumière, dans la lumière de ce jour, que cette lumière, que cette lampe nous éclaire, que nous puissions ainsi marcher dans les sentiers qui ont été tracés. Selon la loi de Moïse, selon ta parole, que lui vienne, que nous ne vivions plus cela, mais que lui-même vise toutes ces choses en nous, que nous ne nous en détournions ni à gauche ni à droite, que nous puissions marcher comme au temps de Josué, de victoire en victoire. Et quand il y aura un couac, que nous puissions arranger cela et continuer la marche par après, ne pas s'arrêter. Jusqu'à l'obtention de la promesse, jusqu'à l'adoption, dans le positionnement là où on doit être. Bénis tes enfants, raccompagne chacun d'entre nous, les corps fatigués, que tu leur redonnes la force. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Dimanche prochain, nous aurons Sainte-Seine. Donc, le culte commence à 16h. Et, lundi de Pâques, il y aura Action de Grâce. Et pour ceux qui veulent aussi aller, l'adresse, à le frère Mbongo, qui organise, je ne sais plus quoi, mais il invitait ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent y aller. Dieu vous bénisse.